Ô Mère de Dieu,
toute belle et sans défaut, demeure digne du Seigneur. En toi fut façonné le Fils bien-aimé, le Prince de la vie. Contenant celui qui est, mais sans en être consumé, il a pris chair en toi, le Verbe de Dieu, né avant tous les temps. Astre du matin, ta lumière a resplendi. Avant le lever du soleil, il s'est manifesté, gloire d'Israël, lumière des nations. Paradis nouveau, ton sein pur et virginal, porte le fruit qui donne vie. De l'arbre de la croix a jailli pour nous la source qui guérit. Il est né de toi, l'artisan de l'univers, la résurrection et la vie. Du tombeau il surgit, le nouvel Adam. Ressuscité des morts. Ô Vierge Marie, le Seigneur t'a couronné de tous les dons de l'Esprit Saint. Nous chantons ta beauté, fille d'Israël, épouse immaculée. Dieu d'amour, Père Saint qui donne vie, ô Fils venu dans notre chair, et gloire au Saint-Esprit qui fit de Marie le temple du Très-Haut.
Alors, comme on disait à l'instant, j'ai mis les références bibliques sur le papier, parce que tout le monde en principe a une Bible. Et après, quelques citations que j'ai faites à partir des livres que j'ai consultés, ben vous les trouvez en principe sur la feuille. Donc pour introduire, je prends deux phrases de saint Paul. Oui, malheur à moi, si j'annonce pas la bonne nouvelle. Si je n'évangélise pas, c'est la même chose. Autre citation. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi votre foi. Il s'agit de deux citations de la première aux Corinthiens, 9, 16, 15, 14. Et ces deux citations suffisent à montrer la place centrale de la résurrection du Christ dans ce que nous appelons le kérigme, le noyau essentiel de notre foi chrétienne. Dans l'introduction, un petit ouvrage collectif intitulé « La bonne nouvelle de la résurrection », Robert Gantois rappelle que si la mort de Jésus crucifié sous Ponce Pilate et son ensevelissement sont des faits historiques dûment attestés, il n'en va pas de même de la résurrection. Bon, ça... Deux jours après, ce tombeau a été trouvé ouvert et vide. Il s'agit là à nouveau d'un fait historique au sens strict, c'est-à-dire vérifiable par quiconque et effectivement constaté par plusieurs témoins, à commencer par les soldats qui étaient préposés à la garde du sépulcre. Mais, ajoute encore le même auteur, que s'est-il passé? Comment expliquer l'ouverture du tombeau et surtout la disparition du corps? En toute logique, une seule réponse est possible, réponse humaine, on a enlevé le corps. Mais cette explication, donc je disais la seule humainement concevable, se heurte à une objection majeure, un tel enlèvement n'a pas été constaté. Et ceux qu'on a accusés de preuve, sans preuve, pardon, l'ont nié. C'est-à-dire les gardes. Enfin. On est d'une certaine façon, poursuit l'auteur, face à une énigme historique, comme tant d'autres faits historiques, jamais élucidés. À ceci près, dans le cas de la résurrection, que de nombreux témoins dignes de foi ont assuré avoir vu le Christ ressuscité. Il est question de 500 personnes à la fois. Qui plus est, l'annonce de la bonne nouvelle, qui a été faite par tous ces témoins après l'événement de la Pentecôte, a suscité, je cite encore Gantois, la foi d'une multitude qui est elle aussi un fait historique. C'est le début des Actes des Apôtres, le discours de Pierre, et un témoignage qu'il faut prendre en compte. Fin de citation. Élargissant cette perspective, saint Paul parle par exemple au début de la lettre aux Colossiens du mystère. On a déjà parlé hier beaucoup de ça. Il parle du « c'est un mystère ». Dieu, dit-il, dans le premier chapitre des Colossiens, m'a confié la charge de réaliser chez vous l'avènement de la parole de Dieu, ce mystère resté caché depuis les siècles et les générations et qui maintenant vient d'être manifesté à ses saints. Dieu a bien voulu leur faire connaître de quelle gloire est riche ce mystère chez les païens. C'est le Christ parmi vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 26-27. Et au début du chapitre qui suit, il précise qu'en tant qu'apôtre, il doit livrer une dure bataille pour faire connaître à tous les habitants de la région de Colosse, dans laquelle se trouve en particulier la ville de Laodicée, faire connaître son propre témoignage afin que leur cœur en soit stimulé et que, étroitement rapprochés dans l'amour, ils parviennent au plein épanouissement de l'intelligence qui leur fera pénétrer le mystère de Dieu dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, Colossiens 2, 2, 3. Et il les met en garde contre les dangers de toute idéologie. Vous avez remarqué que le texte de ce matin, de la lettre aux Hébreux, dit la même chose à l'aude. Ou, comme il le dit, de toute philosophie, qui, en se fondant sur les éléments du monde, travestirait la véritable foi dans le Christ. Dans d'autres épîtres, saint Paul reprend sous une forme légèrement différente la définition de ce qu'il appelle le mystère. Par exemple, dans la première à Timothée, on peut lire 1 Timothée 3,16 « Oui ». C'est incontestablement un grand mystère que celui de la piété ou de la religion, les traductions varient. Il, c'est-à-dire le Christ, a été manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé aux nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. On peut se souvenir d'un amnèse que l'on récite ou chante à chaque Eucharistie, juste après la consécration, les diverses variantes. Celle qu'on dit le plus souvent, c'est... le prêtre invite les fidèles à proclamer avec lui le mystère de la foi, et les fidèles répondent, nous répondons, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus-Christ, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Alors ces quelques mots-là, par ces quelques mots, se trouvent résumés, m'a semblé, les différents aspects de la résurrection que l'on peut regarder pendant cette journée. Premièrement, les divers témoignages. Alors, il y a le témoignage du tombeau vide, qui est donné successivement par les femmes, par les apôtres, par les gardes qui étaient auprès du tombeau. Ça, c'est la première chose, celui du tombeau vide. Deuxièmement, les annonces de la résurrection proprement dite, qui, elles, sont données, premièrement, conformément aux Écritures, deuxièmement, par l'annonce qu'en font les anges, l'a vu dans la citation tout à l'heure, troisièmement, par l'annonce qu'en font celles et ceux auquel le Christ ressuscité est apparu. Enfin, dernier point de cette première partie, après quoi on considérera les différentes apparitions, puis la nature et le sens des apparitions du Christ. Alors je précise qu'on a chanté la Vierge tout à l'heure, c'est pas dans l'Écriture, mais c'est dans la tradition de l'Église de penser que le premier témoin de la résurrection est certainement la très sainte Vierge Marie. Ensuite, deuxième partie, on va s'interroger sur la signification eschatologique de la résurrection. Puisque dans l'anamnèse, on dit « Nous attendons ta venue dans la gloire ». C'est ce qu'on appelle la résurrection des morts à la fin des temps, ou bien encore les fins dernières. Enfin, on tentera de comprendre la signification de la résurrection et son retentissement dans notre vie chrétienne de tous les jours, qui peut vraiment faire objet du partage, ou bien, pour dire, la résurrection comme mystère de notre salut. Alors, ces données-là sont importantes pour tous les chrétiens, j'espère, et en particulier pour nous qui, depuis tant d'années, célébrons Pâques avec frère Jean-Claude et puis Marcelin quand il pouvait encore. Voilà. Donc maintenant, on passe à la première partie qui va être essentiellement ce qu'on va dire ce matin. Les témoins de la résurrection et la prédication apostolique. Alors, premier témoin, eh bien, témoignage du tombeau vide. Et en premier, le témoignage des femmes, puisque c'est les femmes qui ont été les premières informées. Les quatre évangiles affirment ensemble que, je cite Matthieu 28,1, que après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, des femmes se rendent au sépulcre où le corps avait été déposé la veille du Shabbat, ce qu'on appelle dans la liturgie juive le soir de la parasève. Enfin, le frère va nous... va peut-être me contredire, mais enfin, je fais ce que je peux. Ces femmes veulent lui rendre les honneurs funèbres, ce qui ne peut pas se faire le jour du Shabbat, c'est interdit. Même saint Jean, dont la tradition est assez différente, indépendante de celle des synoptiques, mentionne ce fait-là, les femmes au tombeau. Les éventuelles différences vont concerner le nom ou les noms des femmes qui sont citées. Si vous avez déjà vu les différents évangiles, vous voyez que chez Matthieu, on parle de Marie de Magdala et de l'autre Marie, Matthieu 28,1. Chez Marc, Marc mentionne Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, donc c'est Marc 16,1. Et il semblerait que Marie, mère de Jacques, corresponde à l'autre Marie de Matthieu. Bon, en tout cas, il semblerait. Luc, pour sa part, cite les noms de Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Luc 24,10. Quant à Jean, nous le savons, il ne mentionne que Marie-Madeleine. Jean 20,1. Il faut toutefois remarquer que les évangiles synoptiques, comme Jean, attribuent un rôle prépondérant, c'est compréhensible, à Marie-Madeleine, même s'ils ajoutent d'autres noms en fonction de leurs intentions respectives aux uns et aux autres. On peut observer aussi que Jésus, tout au long de son ministère public, ça c'est bien avéré, est accompagné d'un groupe de femmes, dont certaines sont bien celles qui se retrouvent au tombeau. Donc il y a une suite entre les deux, enfin une correspondance. Par exemple, si on lit en Luc 8,2-3, on voit « Il cheminait à travers les villes et les villages, les 12 l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies, Marie, surnommée la Magdaléenne, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. » Fin de citation. Marc écrit quant à lui à propos de celle qui était au calvaire, donc en Marc 15, 40-41, « Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Josette, et Salomé qui le suivait et le servait, lorsqu'il était en Galilée, beaucoup d'autres encore qui étaient montés avec lui à Jérusalem. » Fin de citation. De surcroît, Marc s'intéresse au nom des femmes qui étaient de la parenté de Jésus, tandis que Luc mentionne surtout celles qui ont fait l'expérience de guérison ou de conversion, et aussi, dans le cas de Jeanne, celles qui sont dans le milieu d'Hérode, milieu hérodien, auquel il faisait attention. Et comme le passage de Marc cité le montre, ce que j'ai cité tout à l'heure, le groupe des femmes est déjà présent au moment de la crucifixion. On va examiner plus attentivement, plus loin, les traits respectifs des scènes décrites par les quatre évangélistes, mais on peut tout de suite observer, et je prends l'observation dans le livre de vieux livre, mais encore toujours valable, de 1968 de Daniel Lou, la résurrection, qui s'intitule La résurrection. Elles, donc les femmes, tiennent incontestablement une place éminente comme témoins des mystères du Christ de l'incarnation et la résurrection. D'ailleurs, Marie-Madeleine, on le sait, et le mardi après Pâques, on célèbre ça, on dit qu'elle est l'apôtre des apôtres. Et son nom, la Magdaléenne, alors ça, je soumets ça aux frères qui connaissent bien l'hébreu, signifierait, paraît-il, la forteresse, comparé avec le chef des apôtres Simon, qui devient Képhas, le rocher, ou la pierre. Bon, il ne faut pas exagérer pour autant le parallèle entre le groupe des saintes femmes et celui des apôtres, mais elles ont accès, tout comme eux, au mystère du Christ. Mais elles les transmettent, si dit Danielou, et je pense que c'est vrai, sur un mode différent. Bon, ça paraît évident. Quoi qu'il en soit, le témoignage des femmes est indéniablement digne de foi, puisque, comme on l'a remarqué tout à l'heure, elles avaient partagé la vie de Jésus avant sa passion. Donc elles sont capables de reconnaître quelqu'un qu'elles ont vu pendant plusieurs années.
Marie-Madeleine, elle ne le reconnaît pas au premier coup.
Oui, attends, deux secondes. Tu vas trop vite. Au demeurant, on peut distinguer chez elles deux groupes distincts, comme on a déjà suggéré. Les parentes de Jésus, d'une part, les miraculés et convertis, de l'autre. Marc et Matthieu mettent l'accent sur le premier groupe. Donc, le premier groupe, ce sont Marie, mère de Jacques le mineur et de Josette. Et c'est Marie, c'est la Marie qui est la sœur de la mère de Jésus. Qui est la sœur de la mère de Jésus, donc de Marie. Puis, Marie, femme de Clopas, ou encore appelée Cléophas, qui était un frère de Joseph. Enfin, il y a aussi Salomé, probablement épouse de Zébédée, et donc mère de Jacques et de Jean, Jacques le Majeur et Jean. Les membres de cette famille de Jésus, qui devaient d'ailleurs, on le sait, occuper des places très importantes dans la première église, l'église primitive. Jacques le Mineur, semble-t-il, fut le premier évêque de Jérusalem, et son successeur allait être Simon, fils de Clopas. Danielou conclut, « Nous sommes donc en présence d'une transmission des données historiques à travers un milieu familial qui représente une garantie exceptionnelle d'historicité. » Il était dans ma famille, Jésus, voilà. On ne peut donc pas admettre, comme l'ont fait naguère, je pense quand même que c'est moins à la mode aujourd'hui, un certain nombre d'exégètes protestants du début du XXe, comme Rudolf Bultmann, dont l'ouvrage le plus connu, c'est « Le Nouveau Testament et la mythologie »,« Neues Testament und Mythologie », que l'important, vraiment, pour eux, c'est simplement le fait de la résurrection et pas le contenu de la doctrine révélée. Alors, il dit en allemand, ce qui compte, c'est le « das », c'est pas le « was ». Parce qu'ils étaient partisans d'une démythologisation générale de la Bible. L'autre groupe de femmes est celui des miraculés et des convertis dont parle Luc. Alors en tête de ce groupe, bien sûr, il y a Marie-Madeleine. Pour la communauté primitive, Marie-Madeleine apparaissait sans doute comme révélant une importance primordiale. De la même façon que dans le cas du premier groupe, il s'agit de femmes qui ont partagé la vie publique de Jésus en Galilée et qui se sont retrouvées auprès de lui pendant la Passion. De toute manière, il y a au moins, en plus de Marie-Madeleine, une autre Marie, celle qui est présente dans les deux groupes. Donc il s'agit de la mère de Jacques le Mineur et de Josette, et qui se trouve, comme on l'a déjà mentionné, être la sœur de la mère de Jésus. Être la sœur, donc, de Marie, la mère de Jésus. Danielou conclut, il semble que les évangélistes et voulu ainsi souligner la force du témoignage en montrant qu'il se rattachait à des traditions diverses. Si des traditions diverses témoignent ensemble de la résurrection, il y a des chances que ça soit vrai. En tout cas, elles s'accordent toutes pour témoigner que le tombeau était vide. Le premier témoignage, c'est le tombeau vide. Ce qui frappe dans ce cas, c'est qu'en un premier temps, cette constatation n'est pas interprétée par les femmes comme signifiant la résurrection. C'est ça qui ça peut surprendre, mais c'est vrai. Et même, dit Danielou, éventuellement un malheur de plus. On nous a enlevé Jésus. Marc remarque qu'ayant constaté que la pierre était roulée, que le tombeau était vide, Marc 16, 2, 4 et 8, elle ne dit rien à personne parce qu'elle avait peur. Finalement, Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont prévenir les apôtres en cas. Deuxièmement, donc, le témoignage des apôtres. Luc rapporte, en parlant du dialogue entre les femmes et les apôtres, ce que disent à Jésus qui n'ont pas encore reconnu les deux compagnons d'Emmaüs. On connaît bien ce grand texte, Luc 24, 22, 23. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés, mais en fait c'est des femmes, hein, étant allées de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Jean, de son côté, note que Marie-Madeleine vient prévenir Simon-Pierre et le disciple que Jésus aimait en leur disant, tout ému, on a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. La constatation du tombeau vide, c'est donc un fait historique qui fait, semble-t-il, partie de la plus ancienne tradition de l'Église. L'interprétation qu'on peut donner au tombeau vide ne viendra qu'après. Arrivé au tombeau avant Pierre, lui-même, l'autre disciple, attend, et ensuite, dit saint Jean, il voit et il croit. À part, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il croit à la résurrection? On peut penser qu'il croit à la réalité historique de la constatation que le tombeau est vide. Mais est-ce qu'il croit que Jésus est ressuscité? Pas sûr. Comme on vient de dire, l'interprétation va venir ensuite, quand Marie-Madeleine, se retournant en entendant la voix de Jésus, aura reconnu le Seigneur dont elle croyait qu'il était le jardinier. Donc ça, c'est le témoignage des apôtres. Ensuite, des Juifs. La confirmation de la réalité du tombeau vide vient aussi de l'histoire qui, selon Matthieu, Matthieu 28, 15, aurait été colportée parmi les Juifs. Elle consistait à dire que les disciples étaient venus durant la nuit et avaient dérobé le corps. Matthieu 28, 13. Les Juifs admettaient donc le fait du tombeau vide. Seule, évidemment, l'explication diffère. Pour les Juifs, il s'agit d'une supercherie. Danilou fait remarquer qu'il en était de même pour la naissance de Jésus. Pas si c'est vrai ce qu'il dit. La tradition juive admettait qu'il n'était pas le fils de Joseph. Elle affirmait qu'il était né de l'union illégitime de Marie avec un soldat. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est ce que raconte Daniel. Matthieu montre que le vol du corps de Jésus par les disciples est une invention des grands prêtres. Les grands prêtres se souvenaient en effet que le maître avait annoncé qu'il ressusciterait le troisième jour, Matthieu 26, 61. Et évidemment, c'était pour cette raison-là qu'ils avaient demandé à Pilate de mettre les gardes auprès du tombeau, Matthieu 27, 64. Pourtant, les gardes sont témoins d'un phénomène extraordinaire dans Matthieu, puisqu'ils voient l'ange rouler la pierre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre, l'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillirent de foi et devinrent comme morts, Matthieu 28, 2, 4. Voilà pourquoi ils vont se précipiter chez les grands prêtres, qui leur donne de l'argent pour qu'ils portent le faux témoignage. Matthieu 28, 11, 15. Il n'en reste pas moins que les gardes ont été témoins de l'intervention de Dieu par l'intermédiaire de son ange. Donc les gardes parlent vrai, mais après ils comportent ce que les grands-pères veulent qu'ils comportent. Alors certains exégètes ont dit, oh là là, Matthieu, on peut contester parce que probablement il voulait répondre aux arguments des Juifs. Alors c'était un passage apologétique ou polémique, etc. Pourtant, il reste vrai que pour ces derniers, il était clair que le tombeau avait vraiment été retrouvé vide. Il n'y a pas de doute pour les Juifs, les gardes juifs.
Même les grands prêtres.
Oui, enfin les grands prêtres, ils croyaient pas.
Ils sont embêtés par ça, mais ils y croient. En fait.
Oui, ah ben ça, c'est pas dit qu'ils y croient. Hein.
Bah, le fait qu'ils disent qu'ils essaient de camoufler l'affaire, c'est qu'ils y croient.
Non, mais
on parlera après.
Oui, vaut mieux parce que là, c'est bon, juste je dis ce que on lit dans l'Évangile après. De surcroît, ajoute Danielou, l'affirmation du vol du corps par les disciples est probablement bien plus tardive que l'événement et parfaitement invraisemblable. Elle est, dit-il, en complète contradiction avec l'esprit des apôtres et des femmes. Il fallait donc que le tombeau trouvé vide ait une autre explication, et c'est celle qui va être donnée par l'ange. Donc maintenant, deuxième point, les annonces de la résurrection comme révélation. Donc là, on n'est plus dans l'histoire, on est dans la révélation. Révélation d'abord, conformément aux Écritures. Le Christ, qui est à la fois homme et Dieu, s'est fait connaître à nous les hommes de deux manières. En tant qu'homme, les faits historiques de sa vie sont repérables, sa naissance, sa vie publique, sa passion, sa mort sur la croix, son ensevelissement et son tombeau vide au matin du troisième jour. Mais en tant que Dieu, il ne se fait connaître que par la révélation. Et c'est le cas dans ses apparitions comme Christ ressuscité. En effet, l'explication du tombeau vide ne pouvait pas se comprendre purement par les faits historiques. En un sens, la révélation future de la résurrection avait déjà été donnée par les prophètes dans l'Ancienne Alliance, pour qui savait le lire, évidemment, savait les lire. La possibilité d'une résurrection s'était faite au fil des siècles dans l'Ancienne Alliance. C'est peu à peu. Jésus reproche d'ailleurs aux disciples d'Emmaüs de ne pas avoir tenu compte des prophéties d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel. Par exemple, hier on a parlé d'Ézéchiel 37, les ossements desséchés, ou encore du chapitre 3 du livre de la Sagesse. Et puis encore d'autres passages, ou en partie des passages des psaumes aussi. Et Jésus lui-même reproche aux disciples d'Emmaüs leur ignorance de ces annonces prophétiques. Luc 24, 25, 27. Alors il leur dit, « Ô cœur sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Et en commençant par Moïse et en parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ce n'est pas leur concernait, ce qui le concernait. Alors on aurait bien aimé que les évangélistes nous transcrivent tout ce que Jésus a dit aux disciples d'Emmaüs, ça nous aiderait bien, mais ce n'est pas dit dans l'Évangile. Donc voilà. De plus, Jésus avait annoncé à ses apôtres et aux disciples ce qu'ils devaient subir. On trouve plusieurs de ces annonces dans les Évangiles, on le sait. Par exemple, si on prend chez Marc, c'est trois fois. Marc 8, 31, « Et il commença de leur enseigner, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué, et après trois jours, ressuscité. » Simon-Pierre, qui s'était mis, en entendant ça, à le gronder et le mourichonner, lui faire des reproches, se voit aussitôt qualifié par Jésus de Satan, ce qui pour le fondateur, le premier pape, c'est quand même rude. Hein. Alors que juste avant, il avait proclamé avec force sa foi et celle des autres apôtres. Et Jésus avait dit que c'était... Il ne disait pas ça lui-même, il disait que c'était révélé par l'Esprit Saint de la part du Père. En 9.31, donc Marc 9.31, une deuxième annonce de la Passion, car il instruisait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront. Et quand il aura été tué, après trois jours, il ressuscitera. » Et Marc ajoute, dans le verset qui suit, « Mais ils ne comprenaient pas cette parole » et il craignait de l'interroger. Troisième fois au chapitre 10, versets 32-34, ils étaient en route, montant à Jérusalem, la Passion s'approchait, et Jésus marchait devant eux, et ils étaient dans la stupeur, et ceux qui suivaient étaient effrayés. Prenant de nouveau les 12 avec lui, Jésus se mit à leur dire ce qu'il allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils le bafoueront, cacheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et après trois jours, il ressuscitera. Le récit de la venue de Pierre et de Jean au tombeau vide montre clairement qu'avant cet événement, les apôtres ne pouvaient rien comprendre à ces annonces, comme par exemple après avoir rapporté que l'autre disciple vit et crut, saint Jean ajoute, en effet, il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Jean 29. Saint Paul, pour sa part, dit, on le sait, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. 1 Corinthiens 15, 4. Mais en quel sens les Écritures parlent-elles de la résurrection ? S'agissait-il de la résurrection des corps ? La chose se discute, enfin est discutée en tout cas. Peut-être, enfin, dans l'Ancien Testament je parle, peut-être le livre de la Sagesse et les livres des Maccabées le comprenaient-ils dans ce sens ? Pour l'essentiel, dans la tradition de l'Ancien Testament, la tradition juive, en particulier dans les passages des prophètes auxquels je faisais allusion tout à l'heure, comme par exemple celui d'Ézéchiel 37, les ossements desséchés, Il s'agirait probablement d'un sens eschatologique, à savoir d'une action de Dieu suscitant une nouvelle création par la puissance de l'Esprit. Peut-être même que c'est dans ce sens que l'autre disciple comprend en voyant le tombeau vide. Point d'interrogation. Deuxième annonce, l'annonce de la résurrection, enfin, conformément aux Écritures, maintenant, l'annonce par les anges. On a parlé de l'apparition de l'ange qui roule la pierre du tombeau dans l'évangile de Matthieu. Mais les autres évangélistes mentionnent aussi la présence des anges. Marc 16, 5 parle d'un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche. Luc parle d'abord de deux hommes qui se tinrent devant les saintes femmes en habits éblouissants. Luc 24, 2, 3. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau, mais étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Et il advint, comme elles demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Et cette apparition les remplit d'effroi, dit l'Évangile. Et l'annonce qu'ils leur font les stupéfie. Et tandis que saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils n'osaient même pas regarder, ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Luc 24, 5, 6. Mais un peu plus loin dans le texte, les disciples d'Emmaüs qui rapportent l'événement à Jésus, compagnons de route qu'ils n'ont pas reconnu, que les femmes, ils le rapportent, que les femmes n'ayant pas trouvé son corps, sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges, qui le disent vivant. Donc Luc 24, 23. Et ils ajoutent, quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau, et ont trouvé des choses, tout comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Donc Luc 24, 24. Jean signale en Jean 20, 12, 13 que Marie-Madeleine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en se penchant tout en pleurant vers l'intérieur du tombeau, voit deux anges en vêtements blancs assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ces deux anges lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Celle-ci leur dit « Parce qu'on a enlevé le corps de mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis ». Remarquons que l'apparition des anges, là, pour Marie-Madeleine, ne lui fait pas peur, comme elle fait aux femmes dans Saint-Luc. Car sa préoccupation principale, c'est de retrouver celui qu'elle aime, de son Seigneur. On peut constater qu'il y a quelques différences d'un récit à l'autre à propos des anges, puisque certains des évangélistes parlent de deux anges et d'autres d'un seul. Mais ce qui importe sans doute, c'est qu'ils mentionnent tous la présence d'anges, en continuité avec leur même présence à différentes étapes de la vie terrestre de Jésus. Intéressant de voir qu'il y a continuité en ce domaine. À la nativité, on le sait, les anges, une grande nouvelle, le jour du baptême, après les tentations au désert, et au moment de la résurrection, donc maintenant. À chaque fois, les anges sont présentés comme rayonnant de la gloire divine. Jésus lui-même, lorsqu'il va décrire la venue du Fils de l'homme au moment de la parousie, dit d'ailleurs, comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 27. L'expression « comme l'éclair » montre aussi que les anges sont associés à leur aspect brillant et donc glorieux, à la manière dont lui-même apparaît aux trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, au jour de la transfiguration, en Matthieu 17, 2 par exemple, « Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » En Marc 9, 2, 3, « Et il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. » Enfin, en Luc 9, 29, « Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement d'une blancheur fulgurante. » Sans qu'il soit question de vêtements brillants comme la lumière, on peut quand même lire au début de la deuxième épître de Saint-Pierre le témoignage du chef des apôtres parlant justement de cet événement de la transfiguration. 2 Pierre 1, 16, 18 « Car ce n'est pas en suivant des fables sophistiquées que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais après avoir été témoin oculaire de sa majesté. Il reçut en effet de Dieu, le Père, honneur et gloire, lorsque la gloire pleine de majesté lui transmit une telle parole, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Cette voix, dit Saint-Pierre, Nous, nous l'avons entendue. Elle venait du ciel. Nous étions avec lui sur la montagne sainte. Danilou commente ainsi cette intervention des anges au moment de la résurrection. Je cite, « Leur seule présence témoigne qu'une action divine et essentielle s'accomplit. Elle est donc déjà en elle-même un témoignage de la résurrection. Elle est pour les femmes qui cherchaient le corps du Christ, une rencontre avec le divin. » Le rôle des anges à travers toute la Bible est de servir, on le sait, comme messager de Dieu. Souvent, on dit « l'ange du Seigneur » qui annonce un message. Certains exégètes soulignent qu'ils sont à la fois totalement subordonnés à Dieu et donc au Christ, mais en même temps, et c'est très important, et on y a fait allusion hier encore, radicalement différents de lui, puisque comme les hommes, ce sont des créatures. Ils appartiennent au monde céleste, mais à un monde céleste créé. Chez tous les quatre évangélistes, ils annoncent la résurrection. Mais leur rôle est plus ou moins mis en relief suivant l'évangéliste. Chez Matthieu, on l'a vu, il roule la pierre au tombeau avant de parler aux femmes. Chez Jean, il se contente de demander à Marie Madeleine pourquoi elle pleure. Jean 20, 13. Parce que Saint Jean concentre davantage son attention sur la manifestation de la personne de Jésus, tandis que Matthieu est plus influencé par ce qu'on appelle l'apocalyptique juive. Il faudrait, pour comprendre toute l'étendue du débat concernant les anges, s'intéresser à l'émergence dans la tradition juive et surtout chrétienne de la notion de personne, ou encore, en termes grecs, de réalité subsistante, ce qu'on appelle une hypostase. Alors on sait qu'au début du IIIe siècle, parmi toutes les hérésies qui fleurissaient à l'époque, il y a une hérésie dite modaliste, qui a été prêchée par un certain Sabellius. Ce gars-là et tous ceux qui le suivaient prétendaient que le Père, le Fils et l'Esprit Saint n'étaient que trois modes de l'Esprit divin. Ils étaient trois pour nous, mais en réalité une seule réalité divine, nous apparaissant de trois manières. Je signale qu'il existe encore plusieurs églises unitariennes dans le monde, en fait des petits groupes en France, mais à d'autres endroits c'est plus important, qui prônent la même doctrine. Pour les modalistes, les anges ne sont pas des réalités personnelles, ce que la doctrine chrétienne orthodoxe affirme avec force. De même que Dieu est bien unique, mais en trois personnes distinctes. Pour Danilou, comme pour son confrère jésuite célèbre et ami et aussi cardinal de Lubac, Henri de Lubac, mettre en question l'existence des anges fait partie d'une sorte d'aplatissement du christianisme. Je n'ose pas dire, alors là c'est moi qui parle pour moi-même, que j'ai moi-même entendu certains prêtres parler des anges comme une sorte de mythe commode pour faire comprendre certains événements fondamentaux du christianisme, tels que l'annonce faite à Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Le jour de l'Assomption, on a entendu un bon père nous prêcher, Régine et à moi, que naturellement il ne fallait pas croire que la Vierge Marie avait vu un ange, non. C'est une manière de faire comprendre que dans son cœur, une annonce était faite. Voilà. En tout cas, eux, les quatre évangélistes, ils prennent grand soin de distinguer l'annonce de la résurrection faite par les anges de celle qui a été faite par les femmes quand le Seigneur ressuscité leur eut apparu ou directement par le Christ lui-même. Alors maintenant, on en vient aux apparitions du Christ ressuscité, apparitions décrites. Pendant les 40 jours après la résurrection, nous savons, le Christ n'a pas cessé d'apparaître à de nombreuses personnes. Ces apparitions, ces personnes en ont témoigné après la Pentecôte. Et c'est bien ce que récapitule saint Paul au début du célèbre 15e chapitre de la première aux Corinthiens. 1 Corinthiens 14, là j'ai dit 15e, c'est 14, c'est 14e. 3, 8. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, Paul il en remet, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite, voilà ce que je disais au début, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, la plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent, et quelques-uns se sont endormis, enfin ça veut dire qu'ils sont partis vers le Seigneur, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. Alors, il y a des diversités entre les témoignages de ces apparitions. Par exemple, saint Paul, dans le texte que je viens de lire, ne parle pas des femmes, à la différence des autres évangélistes. Pas croire qu'il est misogyne, mais par ailleurs, comme on lit rapidement l'évangile de Luc, on pourrait croire que toutes les apparitions ont lieu le jour de Pâques. Néanmoins, au début des Actes des Apôtres, le même saint Luc écrit, donc au début des Actes, Actes 1-3, pendant 40 jours, il leur était apparu et il les avait entretenus du royaume de Dieu, les apôtres. Marc et Luc ne parlent que de Jérusalem, ou bien de sa proximité, par exemple Emmaüs. Matthieu et Jean rapportent aussi des apparitions en Galilée, notamment au bord du lac de Tibériade. Mais en définitive, tous ces récits ne s'opposent pas, ils se complètent. Enfin, du moins on peut le croire. Alors, apparitions qui suivent l'ordre chronologique. On note d'abord l'apparition aux femmes. On a déjà vu que là aussi, il y avait des différences. Par exemple, que le fait que Jean raconte longuement de l'apparition à Marie-Madeleine, alors que les synoptiques parlent de deux groupes. Déjà dit. La finale de Saint-Marc, 16-9-19, dont les exégètes ont montré et remontrent encore qu'il s'agit d'une sorte de supplément, s'attarde également sur le cas de celle dont Jésus avait chassé sept démons, Marc 16-9. Et il récapitule toute une série d'apparitions, notamment à deux d'entre eux qui étaient en chemin et s'en allaient à la campagne, Marc 16-12, donc il fait référence à Emmaüs. Lui rappeler que c'est déjà rappelé que Paul ne parle pas des apparitions aux femmes. Ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit, qu'il les ignorait ou qu'il les méprisait, mais qu'il se conformait à l'usage juif, selon lequel seul le témoignage des hommes avait valeur juridique, soi-disant. Ça discuté. En un deuxième temps, il y a les apparitions aux apôtres. Alors, ce sont les plus importantes, puisque leur témoignage va constituer, comme le dit Danielou, le fondement de la foi. Au jour de Pentecôte, Pierre affirme, au nom des douze, donc ça veut dire qu'il est bien reconnu comme le chef du groupe, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Acte 2, 32. Et on a déjà signalé que Paul, dans le chapitre 15, et verset 5 de la première aux Corinthiens, mentionne bien que Jésus ressuscité est apparu aux douze. On trouve dans les évangiles le récit de plusieurs apparitions différentes aux apôtres. Dans Luc, c'est le soir de Pâques, Luc 24, 36, 42. Chez Jean, également le soir du dimanche suivant, lorsque Thomas est cette fois présent, Jean 20, 19, 29. Marc reproduit plus ou moins la tradition de Luc. Toutes ces apparitions sont situées à Jérusalem. Pour sa part, Matthieu ne parle pas d'apparition dans la ville sainte, mais d'une autre apparition aux onze sur une montagne de Galilée, Matthieu 28, 16. Mais Marc et Luc, comme lui, parlent de l'envoi en mission pour baptiser toutes les nations. Matthieu 28, 18, 19. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Marc 16, 15, 16, et il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toutes les créations. Celui qui croira sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Luc 24, 45, 48, « Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures et leur dit, « Ainsi est-il écrit, que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes témoins. » Au début des Actes, on trouve juste avant l'ascension, « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 1-8. Ces apparitions aux apôtres sont en général des apparitions collectives. Mais il y a aussi des rencontres particulières. Il semble qu'en tout premier lieu, après la Sainte Vierge, après les femmes et la Sainte Vierge, le ressuscité soit apparu à Pierre. C'est Paul qui en a rendu compte en 1 Corinthiens 15, 5. Luc y fait écho en 24, 34. Et il situe cette apparition à Jérusalem le jour de Pâques, même si les autres évangélistes n'en font pas état. C'est clair que pour saint Paul, il convient de montrer que Pierre a une autorité personnelle distincte de celle du collège apostolique, c'est-à-dire tant que premier des apôtres. Avec les onze, il est témoin de la résurrection d'une manière éminente. Jean complète ça en rendant compte de l'apparition du Seigneur en Galilée au bord du lac, Jean 21, 1, 25. Les apparitions à Jérusalem, avait pour but de convaincre les apôtres de la vérité de la résurrection, celles qui se sont déroulées en Galilée, sont relatives à l'achèvement de la fondation de l'Église. Dans ce texte de Jean, il y a quatre apôtres, Pierre, Thomas, Jean et son frère Jacques, ainsi que trois disciples, Nathanaël et deux autres. Il faut noter, comme déjà indiqué, que Pierre bénéficie d'une manifestation particulière par laquelle il est confirmé, excusez, comme chef des apôtres. La présence de Thomas, qui sera l'apôtre de la Syrie orientale et plus loin de l'Inde, semble signaler que, comme Jean lui-même, il fera partie des évangélisateurs de l'Asie, alors que Pierre et Paul seront ceux de l'Europe d'Occident. Jean s'est déjà empressé auparavant, en Jean 20, 24, 29, de prouver que Thomas était bien un, citation, témoin autorisé de la résurrection. Outre les apparitions aux femmes et aux apôtres, on trouve aussi plusieurs apparitions de caractères divers aux frères et aux disciples qui avaient suivi le Seigneur dans son ministère public. Par exemple, les disciples d'Emmaüs ne sont pas des apôtres, ce sont des disciples. Et Luc 24, 15, 35. Dont le cas est aussi brièvement indiqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, par saint Marc, 16, 12, 3. Paul, on l'a vu, rappelle avec une grande précision une tradition remarquable. Donc le texte. Ensuite, il est apparu à 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux vivent encore, certains sont morts, déjà lu. Il faut enfin citer deux manifestations du Christ ressuscité mentionnées par Paul. Premièrement à Jacques. Ensuite, il est apparu à Jacques. Il ne s'agit pas du frère de Jean, mais de Jacques le mineur, qui était cousin de Jésus, premier évêque de Jérusalem. En second lieu, Paul signale encore une apparition à tous les apôtres, 1 Corinthiens 15, 7. D'après certains exégètes, cette expression dans 1 Corinthiens 15, 7 ne désignerait pas les douze, comme on pourrait le penser, mais des missionnaires ou évangélisateurs. Mais il s'agit clairement en tout cas d'un groupe déterminé, peut-être les fameux 72 disciples que l'on voit envoyés en mission par Jésus en Saint-Luc 10.1, ce qui ne serait pas étonnant en raison de tous les contacts entre Paul et Luc, Luc étant un grec sensible à la prédication de l'apôtre des gentils qui était Paul. Si vous tenez encore le coup, nature et sens des apparitions. Tout d'abord, la nature des apparitions. On voit bien à quel point les apparitions du ressuscité tiennent une place majeure dans le Nouveau Testament et en même temps qu'elles constituent une donnée profondément mystérieuse, mais qu'ont voulu nous partager tous ces témoins. À coup sûr, dit Daniel Lou, ils n'ont pas souhaité exposer une doctrine très élaborée, mais rendre un témoignage à des faits, attirer notre attention vers une réalité sous-jacente qu'ils ne pouvaient pas expliquer en termes purement rationnels, mais dont ils affirmaient avec force la vérité. Que s'est-il donc vraiment passé? Dans les Actes, dont Luc se présente comme l'auteur, Luc prend soin de souligner la continuité de la vie du Christ avant et après sa résurrection. C'est notamment l'intention qui préside à l'élection de Matthias, suite à la trahison et au suicide de Judas l'Iscariote. Prenant appui sur le psaume 109, verset 8, qui affirmait qu'un autre prenne sa charge, Pierre déclare en Actes 1, 21-22, « Il faut donc que de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean, jusqu'au jour où il nous fut enlevé, il y en ait un, qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. » Pierre voulait donc souligner une continuité entre la vie de Jésus, il fallait avoir suivi Jésus avant, et pour pouvoir devenir apôtre à la place de Judas. Donc, Pierre voulait donc souligner une continuité dans la vie de Jésus jusqu'à sa mort et sa vie de ressuscité. Et un peu plus loin dans les Actes, il déclare avec force, « Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. » C'est devant le Sanhédrin, en Actes 4, 20. Lorsque les apôtres et donc les évangélistes parlent de « voir », il s'agit bien de la vue sensible, pour le coup, et non d'une vision ou révélation d'ordre surnaturel, comme on peut en voir à travers l'histoire. Jésus ne dit-il pas lui-même à ses apôtres rassemblés le soir de Pâques qui sont saisis de peur et de crainte, en croyant probablement être victimes d'une hallucination collective. Donc c'est Luc 24, 38, 39. Pourquoi tout ce trouble? Et pourquoi des doutes montent-ils dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi. Et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et juste après, il prend un morceau de poisson grillé et le mange avec eux. Luc 24, 42. Et plus tard, dans Saint Jean, bord de Tibériade, c'est lui-même qui fait la cuisine, fait le cuistot. Jean 21, 9, 10. Ceci est vrai de tous les témoins, hommes ou femmes. Contre l'avis de certains exégètes, Danilou conclut page 48, on peut se discuter, hein. Or, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ont réellement voulu dire Pierre, Paul, Jacques, Madeleine, Marie-Madeleine. Les textes sont sans aucune ambiguïté. L'objet de leur témoignage ne porte pas sur une vague affirmation que le Christ est vivant. Elle porte directement sur la réalité physique de son corps ressuscité. Le mot « ressuscité » n'a pas deux sens. Ou bien il signifie que le corps du Christ n'est pas resté dans le tombeau, mais a été vivifié par la puissance de Dieu, et a donc pu être ainsi constaté comme toujours par les témoins, ou bien alors il ne signifie rien. Il faut aussi observer que les témoignages sont souvent très précis, démentant les prétentions d'exégètes qui n'avancent que des arguments pour souligner que les apparitions sont symboliques. Par exemple, Thomas, qui n'arrive pas d'abord à croire ce que ses compagnons déclare, se voit-il une semaine plus tard invité par Jésus à le toucher physiquement? Porte ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. Jean 20, 27. Le mot apparition lui-même est peut-être trompeur. L'auteur des Actes prend soin de montrer qu'il s'agit pour les apôtres non pas seulement d'apparitions ponctuelles, mais d'une vie commune avec eux pendant 40 jours. Acte 1, 3. Jésus apparaît aux apôtres durant 40 jours. Acte 13, 31, il est apparu de nombreux jours durant. On a déjà cité le témoignage de Pierre en acte 10, 41. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. De nombreuses allusions à des repas, d'ailleurs, parsèment tous ces textes. On a rappelé quelques-uns déjà. On peut ajouter le repas de l'auberge d'Emmaüs, Luc 24, 30, ou celui que Jésus prend avec eux avant de monter au ciel, acte 1, 4. Danilou remarque que l'exégète allemand Oscar Kuhlmann, je cite, a souligné l'importance de ces repas du Christ ressuscité avec les apôtres en relation avec le repas eucharistique et le festin messianique. C'est à partir du livre de Kuhlmann, Le culte de l'Église primitive. Le témoignage des apôtres est donc à prendre au sens strict, le témoin oculaire. Ils ont cru parce qu'ils ont vu. Nous qui vivons 21 siècles après eux, nous croyons. Mais nous croyons parce qu'ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu. C'est bien le corps physique du Christ que la puissance de Dieu a soustrait à la condition mortelle et fait passer à un mode d'existence transfiguré. Mais, comme l'ajoute encore Danilou, il est clair que ce corps pouvait à nouveau être rendu perceptible au sens, ceux qui possèdent un mode d'existence éminent peut toujours reprendre un mode d'existence inférieur. Danilou. Deuxième point, ce dernier aspect de ce matin, le sens des apparitions. On pourrait poser légitimement une question en lisant les versets suivants des actes, acte 10-41. En effet, il s'agit du discours chez Corneille. Pierre déclare « Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis à l'avance, à nous qui avons mangé et bu après sa résurrection entre les morts. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester qu'il est, lui, Jésus, le juge établi par lui, par Dieu, pour les vivants et pour les morts. » Question : pourquoi la manifestation du Christ a-t-elle été réservée aux disciples, si la résurrection est vraiment une donnée objective ? Si on veut bien réfléchir, ça veut dire que Jésus ressuscité ne s'est pas montré en public, mais qu'il a limité sa manifestation au groupe des apôtres et des disciples. Il fallait que la résurrection soit pour ceci une constatation et pas seulement une révélation. À cette condition seulement, les apôtres et les disciples pouvaient affirmer avec certitude, comme Pierre et Jean le font devant le Sanhédrin en acte 20, nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Ceci dit, avant la Pentecôte, ils étaient des témoins oculaires, C'est seulement en ayant reçu l'Esprit Saint qu'ils ont vraiment compris le sens de ce qu'ils avaient vécu, des événements qu'ils avaient vécu avec le ressuscité. Pierre fait d'ailleurs clairement la distinction en Actes 5, 32, lors d'une seconde comparution devant Sanhédrin. Nous sommes témoins de ces choses, nous, et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Fin de citation. La période qui suit Pentecôte va donc permettre aux apôtres d'affermir leur certitude, mais aussi de se remémorer un certain nombre d'enseignements du Maître, et qu'ils avaient peut-être oublié ou pas remarqué. En premier lieu, se trouve définie leur mission, qu'ils évoquent de manière diversifiée, mais avec un noyau central commun. Nous avons vu qu'en Actes 10, 41, 42, Pierre indique que le Christ leur ordonne de prêcher au peuple. Matthieu, Marc et Luc font de même, mais en rattachant cet ordre à des apparitions variées. Matthieu, le premier, situe la scène sur une montagne de Galilée, Matthieu 28, 16, 20, les deux autres évangélistes lors d'une apparition à Jérusalem, Marc 16, 15, 18, Luc 24, 46, 48. En ce qui concerne le pouvoir de remettre les péchés, Jean et Marc le rattachent à l'apparition au Cénacle le soir de Pâques, Jean 20, 22, 33, Marc 16, 15, 18. Jean précise de surcroît la mission particulière de Pierre, en tant que chef du groupe apostolique, on a déjà parlé, Jean 21, 15, 17, il devient le pasteur des brebis. Avant sa passion, Jésus l'avait déjà averti, Luc 22, 32, « Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Dans les Actes apôtres, il est clair à plusieurs reprises, notamment de l'élection de Matthias, que Pierre assume pleinement le rôle que le Seigneur lui a confié. Actes 1, 15, 26. Une autre question qui a souvent été posée sur les textes de la résurrection est les éventuelles différences entre les divers témoignages. Alors la réponse est simple, je reprends la conclusion de ce chapitre-là de Daniel Hou. Il est clair qu'elles tiennent à ce que les évangélistes ont retenu dans la grande richesse des témoignages qu'ils connaissaient, et qu'attestent en particulier à l'Épître de Paul, ce qui correspondait davantage au but propre que chacun se proposait. L'évangile de Luc commence à Jérusalem et se termine à Jérusalem. Il veut montrer en Jésus le temple nouveau. L'évangile de Matthieu, où la prédication du Christ était inaugurée sur une montagne de Galilée, s'achève sur une montagne de Galilée. Pourquoi ? C'est pour montrer le nouveau Moïse. Jean reprend à la finale de son évangile le thème d'Ézéchiel 47:1-2 sur l'effusion eschatologique de l'eau vive qui reparaît à diverses reprises chez lui. Mais ses intentions concernent seulement l'élaboration d'un donné historique qui reste l'objet commun de leur témoignage. Je ne sais pas si vous avez encore de l'énergie pour écouter la conclusion. Donc la conclusion se fonde sur le verset de Jésus qui dit « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme, etc. » Donc dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 12, 38-41, on peut lire cet épisode étrange. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et lui dirent « Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe. » Et voici ce que Jésus répond. « Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe. Et de signe ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant 3 jours et 3 nuits. » De même, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant 3 jours et 3 nuits. Ce n'est pas un ange, c'est la femme de ménage. Par cette réponse, le Seigneur Jésus lui-même établit un lien direct entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'histoire de Jonas fait sûrement partie de ces passages de l'Écriture que Jésus ressuscité, mais non pas encore reconnu par eux, commenta au bénéfice des deux compagnons d'Emmaüs, 24-27. Et, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Le livre de Jonas est compté parmi les Nevi'im, les livres des prophètes. Hein, voilà, Torah, Nevi'im et Ketuvim. Le livre de Jonas est en effet, comme nous le savons, un conte. Et c'est un conte à double détente. Premier but, vous faire contempler la puissance de Dieu. Dieu demande à Jonas d'accomplir une mission. « Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas 1, 2. Ouais, cette mission ne plaît pas à Jonas. Il fait tout pour y échapper. Il s'embarque pour Tarsis, c'est-à-dire vers l'ouest, c'est-à-dire vers les côtes espagnoles. Alors que Ninive, on sait bien que c'est en Asie, se situe à l'est. Mais voilà qu'une tempête se lève, au point que les matelots sont effrayés, alors que Jonas dort, lui, tranquillement au fond du bateau, il dit « je vais échapper au truc ». Et alors il cherche à savoir à qui, auquel d'entre eux, ils doivent cette avanie. Il tire au sort, une manière de voir, et ça tombe sur Jonas. Alors ils lui disent « pourquoi, d'où tu viens, pourquoi on a ça ?» Alors il leur avoue honnêtement qu'il fuit Dieu, son Dieu, l'Éternel, Dieu de son peuple, les Hébreux, et que c'est donc à cause de lui que cette tempête s'est levée. Et pour apaiser la tempête, il leur demande de le jeter à la mer. Il s'est dit, bon, comme ça, je vais mourir, je serai tranquille. Mais le Seigneur a poursuivi son dessein. Et donc, il fait qu'il y a un grand poisson pour engloutir Jonas. Et poursuit celui qui écrit le récit, Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas 2:1. Sur quoi le prophète contrit, élève vers Dieu une prière en forme de psaume. Dans Jonas 2:3-10. Il appelle Dieu du fond du Shéol. Et bien que les flots l'environnent et qu'il se croit rejeté par l'Éternel, il dit à ce dernier, « De la fosse, tu as fait remonter ma vie. » Jonas 2:7. Et il conclut, « Moi, aux accents de la louange, je t'offrirai des sacrifices. Le vœu que j'ai fait, je l'accomplirai. D'Adonai vient le salut. » Jonas 2:10. Et Dieu, qui, semble-t-il, n'attendait que ça, commande au poisson qu'il vomisse Jonas sur le rivage. Jonas 2:11. Et il ordonne à nouveau à Jonas, qui est patient, de se rendre à Ninive et d'y annoncer ce qui l'inspirera, Jonas 3:2. Cette fois, Jonas obéit et il commence à traverser Ninive, en prêchant à tout le monde l'urgence de la conversion, sous peine de voir leur ville détruite à l'issue de 40 jours. Si vous ne convertissez pas, dans 40 jours, vous êtes fichu. Normalement, il aurait fallu 3 jours pour traverser cette ville, parce qu'elle est immense, dans le récit. Mais dès le soir du premier jour, toute la ville se repent. Et Dieu lui-même, voyant ses habitants se détourner de leur conduite mauvaise, citation 3:10, se repentit du mal dont ils avaient menacé, il ne la réalisa pas. Donc, les habitants de Ninive se repentent, Dieu se repent. Mais à nouveau, le prophète n'est pas content. Il explique à Dieu qu'il n'avait pas voulu lui obéir parce qu'il savait qu'il était comme ça. Dieu, c'est un Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce, repentant du mal. Jonas 4:2. Alors il dit, bon, moi je souhaite plutôt mourir que vivre. Et alors, le Seigneur Adonai, sans s'énerver, lui pose la question, mais as-tu raison de te fâcher ? De sur quoi Jonas sort à l'orient de la ville, se construit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui arriverait à la ville. Jonas 4:5. Et Dieu, avec gentillesse, fait qu'il y ait un ricin pour faire de l'ombre au prophète. Mais il souhaite aussi l'éprouver encore, en envoyant un ver pour piquer le ricin et le faire crever. Résultat, en se réveillant, Jonas, comme on dit dans le midi chez nous, on dit Roumeg. Roumeg à nouveau, ronchonne, quoi. Et le Seigneur lui déclare, « Toi, tu as de la peine pour ce ricin qui t'a coûté aucun travail, qui t'a pas fait grandir, qui a poussé en une nuit est mort, et moi je ne serai pas en peine pour Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas leur droite ou leur gauche, ainsi qu'une foule d'animaux. » Jonas 4:10-11. Daniel Lou, qui commente ce livre, remarque que le conte est plein de fantaisie, et non dépourvu, mais ça se voit, d'une ironie divine. Mais il contient aussi à moins un double enseignement, comme on a déjà dit. Le premier, c'est la prise de conscience par Jonas et par le lecteur, s'il prête suffisamment attention, de l'universalité du salut. Ce qui est assez nouveau dans l'Ancien Testament. Voilà, l'universalité du salut. Non seulement Dieu se moque des limites où Jonas voudrait l'enfermer, en fait, le prophète voudrait qu'à défaut de détruire Ninive, il inflige à ses habitants au moins un bon coup de trique, un châtiment sévère, mais il fait de celui-là même qui voudrait l'enfermer l'instrument de cet élargissement, dit Daniel Lou, manifestant ainsi que ses voies sont meilleures que celles de l'homme et qu'il saura les accomplir malgré les obstacles qu'apportent ceux-mêmes à qui il confie la mission. Vous remarquez au passage que pendant la tempête, les matelots païens sont plus respectueux du Dieu d'Israël que le prophète. Ils implorent le Seigneur en disant, Jonas 1,14, « Ah, Adonai, comme disent des fois les Juifs, Hachem, puissions-nous ne pas périr à cause de la vie de cet homme, et puisses-tu ne pas nous charger d'un sang innocent, car c'est toi, Adonai, qui as agi selon ton bon plaisir. » On peut ajouter que la première leçon qu'on peut tirer de cet épisode, c'est la confiance que le Saint-Esprit peut nous donner, même quand on a l'impression que tous nos efforts pour faire connaître la bonne nouvelle du ressuscité aux gens qu'on rencontre, même parfois parmi nos proches, ne portent pas de fruits. Deuxième enseignement qu'on peut en tirer, c'est l'annonce, bien des siècles avant sa venue sur la terre, de sa possible résurrection. Jésus lui-même le confirme dans le texte de Matthieu 12. Depuis les origines du christianisme, le livre Jonas a donc été interprété comme contenant cette annonce de la résurrection. On le voit notamment dans beaucoup de représentations artistiques. L'image du poisson, on s'en souvient, était un signe de reconnaissance pour les premiers chrétiens. C'était en outre un rappel du gros poisson qui a retenu dans son ventre Jonas pendant 3 jours et 3 nuits, mais ensuite l'a relâché. C'est le Christ qui, comme le souligne Jean Danielou, va arracher à la mort même la proie dont il s'était emparé. À la manière des donateurs des tableaux flamands, Jésus nous apparaît comme le spectateur un peu dépassé par ces mystères, plus étonné encore d'être mêlé à leur accomplissement, mais à qui son manque d'imagination confère ce caractère indubitable d'un témoin authentique des merveilles de l'amour divin, à la page 64 de Danielou. Merci pour votre patience.